En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent au père d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua : Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'ils portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit : S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour qu'on ne puisse pas traverser, dit Abraham, après la mort de l'homme riche. Avez-vous remarqué que ce gouffre apparaît comme la matérialisation d'un gouffre qui existait déjà, invisible mais bien réel ? En effet, le pauvre nommé Lazare n'était pas plus loin que le portail du riche, et ce dernier n'est jamais allé jusqu'à lui. Lazare était suffisamment près pour voir ce qui tombait de la table du riche, mais personne ne s'est jamais approché de lui pour lui donner quoi que ce soit, sinon les chiens qui léchaient ses ulcères. Ce n'est pas non plus que, par une myopie qui friserait la cécité, l'homme riche n'aurait jamais eu conscience de la présence de Lazare, parce que nous voyons qu'il est capable de reconnaître Lazare de loin aux côtés d'Abraham, et même de l'appeler par son nom. Il connaissait donc son existence, il connaissait sa présence, mais il avait choisi de vivre comme s'il y avait un grand abîme infranchissable entre Lazare et lui. Il avait choisi de son vivant de construire ce gouffre. Il le retrouve matérialisé après son trépas. Bien, l'Évangile nous invite alors à la vigilance. Notre manière de vivre façonne notre éternité. Les gouffres que nous creusons avec nos frères en humanité auront leurs conséquences dans l'au-delà. Remarquons que cet abîme n'est pas d'ailleurs celui d'une malveillance d'abord, ou d'une maltraitance active, personne n'est venu frapper Lazare. Mais c'est le gouffre une indifférence endurcie. Pour moi, tu n'existes pas, et tu n'existeras pas. Je t'ai effacé de ma vision. Cet abîme est une disposition acquise du cœur de l'homme, que même un événement extraordinaire, mais extérieur au cœur, la visite d'un mort, ne saurait modifier. Et du coup, nous sommes invités à nous rappeler la chose suivante, c'est que si Dieu nous sauve personnellement, il nous sauve au sein d'un peuple. Dieu ne nous sauve pas tout seul. Le Christ offre à chacun par sa mort et sa résurrection le salut, mais cela prend place au sein d'un peuple, peuple de Dieu. Nul n'est sauvé individuellement hors de la communion du peuple de Dieu. C'est parfois pas sot de faire un petit exercice, de regarder la personne qui est à côté de vous, à gauche, à droite, et de vous dire, en fait, Dieu veut nous sauver ensemble. Pas moi sans lui, pas lui sans moi. C'est au cœur de ce peuple que Dieu nous appelle au salut. Nul n'est sauvé hors de la communion au peuple de Dieu. Et la liturgie de la messe va insister d'ailleurs à de nombreux endroits sur ce sujet. Je voudrais en relever quelques-uns avec vous. Ça a commencé au tout début par la salutation. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. On a parlé de communion. Est-ce que nous recevons cette grâce ou bien nous la laissons glisser sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard ? Parce que c'est par là que le salut veut entrer dans notre vie. Et puis le « je confesse à Dieu ». Nous avons dit « c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier le Seigneur ». Avons-nous pris au sérieux ce que nous disons ? Est-ce que nous avons songé que nous prions pour celui qui est sur le même rang que moi ? Est-ce que nous avons songé que je priais pour celui qui était devant, pour celui qui était derrière ? Est-ce que j'ai songé que j'étais porté par leur prière ? Nous ne sommes pas appelés à dire des paroles vides, mais à habiter ce que nous disons. Et donc, nous sommes invités à entrer profondément dans cette communion. D'où aussi, j'allais dire, l'importance de notre présence dès le début de la messe. Parce que si au « je confesse à Dieu », tu n'es pas là, bah, tu ne pries pas pour moi. Et si je ne suis pas là, je ne prie pas pour toi. Nous sommes invités à entrer dans tout le parcours de la liturgie parce que la grâce de Dieu s'y donne. On l'entendra encore dans la prière eucharistique. Tu ne cesses de rassembler ton peuple. Il y a une volonté de Dieu de nous rassembler, non pas en foule où chaque individu est perdu, mais en peuple et même en une seule famille. On le redira, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors vous me direz, c'est quand même pas simple, parce que naturellement, c'est vrai, il y a des personnes dont la tête me revient. Et naturellement, il y a aussi des personnes avec qui c'est plus difficile. Il y a même des personnes, je me dis, je les croiserai dans un lieu un peu sombre, je ne suis pas sûr d'être rassuré. Bon, ça c'est un fait de nature. Mais le Christ vient nous donner sa grâce. Il ne nous laisse pas la seule puissance ou impuissance de notre volonté. Nous devenons avec lui un seul corps, un seul esprit. Il nous donne sa paix que nous partagerons. Il nous donne son corps et son sang dont nous sommes remplis. J'aime parfois rappeler à ceux qui ont communié un jour au corps et au sang du Christ, alors c'est un peu décalé, je le reconnais, mais cette expression du livre de la jungle. Peut-être nombreux, je pense, à avoir lu le livre de la jungle, ou au moins avoir vu le dessin animé de Mowgli. Et vous vous souvenez de cette expression, « Nous sommes du même sang, toi et moi ». C'est une expression qui entraîne entre ceux qui la disent une exigence de respect et une exigence de responsabilité mutuelle. Eh bien, j'aime à rappeler, quand nous avons communié au corps et au sang du Christ, nous sommes du même sang, toi et moi. Notre rapport ne peut pas être indifférent. Le Christ nous envoie pour bâtir son peuple, pour le rendre manifeste aux yeux des nations. Et c'est sans doute l'un des points clés de ce dimanche, nous engager à combler les gouffres dans nos relations, à combler les gouffres dans nos fréquentations. C'est pour cela que mon prédécesseur, le père François Potet, insistait tant sur le fait, à la fin de la messe, de saluer au moins deux personnes que nous ne connaissons pas avant de saluer quelqu'un de familier. C'était pas la lubie simplement d'un maniaque, hein. C'est une vraie attention à combler ces gouffres qui existent. Ça commence par là. Et nous savons que nous devons dépasser une résistance parfois de fatigue, de lassitude, de peur, de timidité. Mais c'est pourtant un premier point où nous bâtissons, nous jetons un pont sur ces gouffres qui ont pu être bâtis. C'est aussi pour cela que furent lancées les cellules d'évangélisation paroissiale. Ces équipes de 6-8 personnes qui se retrouvent une fois par semaine pour un temps de partage sur ce qu'ils ont vécu, pour écouter un enseignement donné par le curé, pour avoir un temps de prière d'intercession, ça permet de créer une fraternité entre ses membres. C'est vrai que c'est difficile de créer une grande fraternité avec toute l'assemblée du dimanche. Mais avec un groupe de 6-8, c'est déjà plus facile. Et si nous avons un groupe où nous sommes connus, reconnus, eh bien, la qualité de la vie, la qualité de la prière, la qualité même de nos rencontres dans le quartier seront différentes. Je cite un petit exemple. Les fraternités, les cellules d'évangélisation, chacune à leur tour, prennent en charge la préparation de ces repas paroissiaux mensuels que nous avons. Parce que le dimanche, le jour de la résurrection, eh bien, on ne reste pas seul, on ne reste pas isolé. Et on se joint. Eh bien, voilà, c'est une façon, là encore, de créer ce peuple, de créer cette communion au sein de laquelle le salut nous est donné. Je voudrais vous donner encore une dernière caractéristique de ces cellules d'évangélisation. J'espère que vous êtes toujours vivants, parce que dès que je parle un peu longtemps, on voit les yeux qui tombent le matin. Ça, c'est une journée où il pleuvait, donc le sommeil nous rattrape. Chacun dans la cellule d'évangélisation a un oikos. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est pour désigner quelqu'un de notre entourage pour lequel on va plus particulièrement prier et que l'on va inviter à découvrir la cellule. L'objectif est que certains que l'on a invités finissent par adhérer à la cellule et que la cellule grossisse, et à un moment, elle en donnera deux cellules. Et petit à petit, l'évangélisation se produit, l'évangélisation progresse. C'est la mise en œuvre de cette belle formule « convertir le monde, un cœur à la fois ». Convertir le monde, mais c'est trop grand pour moi. Un cœur à la fois, pourquoi pas? Voilà une façon de prendre au sérieux la construction du peuple au sein duquel Dieu veut nous sauver. Mais il y a aussi un petit exercice que je vous propose de mettre en œuvre. Ce petit exercice, c'est la façon dont nous venons en aide les uns aux autres. Vous savez, on est souvent disposé à donner un coup de main. On voit quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Et puis on lui dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Mais vous savez que parfois, cette proposition, ça se fait quand on est à table, par exemple. On pousse la chaise, on sent se lever. Là, on pousse la chaise. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et en fait, on espère qu'il y a quelqu'un d'un peu plus rapide que nous qui se lève. Essayons de mettre en œuvre une autre tactique qui est celle de « je vois qu'il porte quelque chose de lourd, je me lève, j'ouvre les bras et je lui dis « laisse-moi t'aider ». Ça change complètement notre disposition. L'autre pourra dire « c'est sa liberté, c'est bon, je m'en sors ». Très bien. Mais ce « laisse-moi t'aider » est là encore un pont qui a été jeté entre nous. Une attitude un petit peu différente. Et peut-être que pour nous aider à cela, nous pouvons nous confier tout particulièrement à l'intercession d'un grand saint de l'Église russe qui est très cher au peuple russe, qui s'appelle Saint Séraphin de Sarov, qui a vécu à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, qui était un moine ermite dans la forêt, et beaucoup de gens venaient le voir. Et quand il ouvrait la porte de sa cellule et qu'il voyait le visage de celui qui était là, il s'écriait « Ma joie, Christ est ressuscité !» Ce n'était pas une formule de politesse, ce n'était pas une formule toute faite. C'était le cri de son cœur parce que dans le visage de celui qui était là, il reconnaissait un reflet du ressuscité. Oui, il y avait dans son cœur, par la grâce de l'Esprit-Saint, cette flamme qui reconnaissait un reflet du ressuscité dans le visage de celui qui était là. Je vous invite à repenser au moment, la dernière fois où vous avez été accueilli à bras ouverts. Ah, c'est toi, bienvenue. Et la joie que vous en avez retirée. Et peut-être, à l'encontre, la fois où vous avez eu l'impression de serrer la main à un glaçon. Ah, c'est toi. Eh bien, par l'intercession de saint Séraphin de Sarov, demandons de goûter à quelque chose qu'il avait dans son cœur pour que notre regard sur l'autre soit un regard d'espérance, pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous ne soyons pas arrêtés pour aller à sa rencontre et combler les gouffres que parfois nous avons creusés. Seigneur Jésus, premier-né d'une multitude de frères, vivifie en nous l'esprit de communion que tu avais envoyé à tes apôtres. Que chacun dans notre communauté trouve la grâce et la persévérance de combler les gouffres qui peuvent exister dans nos relations. Alors nous serons, le jour de ton retour, comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Amen.